l'expression de la reconnaissance, de remerciement de frère Corneille à toute l'Assemblée pour tout le soutien qui lui a été apporté et pour toutes les prières qui ont été adressées pour lui. Non seulement le frère Corneille, mais toute sa famille remercie l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse ça. Et je demande au frère Tombeau de le transcrire dans le groupe WhatsApp. Parce qu'il tenait à ce que ça soit mis dans le groupe. Il n'y a pas de problème, on va le mettre. Et ce qui est bien, c'est de voir la solidarité au milieu de nous. Lorsque quelqu'un a besoin d'être soutenu, il n'est pas sans soutien. C'est important que cela... Et nous soutenons également ceux qui sont dans le besoin, pas seulement question de deuil, mais il y a d'autres besoins. Par exemple, de chez notre frère, il y a la maladie a frappé. Je crois qu'on a besoin de... Ils ont besoin du soutien de notre part. Et ce dont on peut faire pour les autres, puissions-nous le faire, je crois que Dieu vous le rendra. Nous allons lire ce soir dans Matthieu 16, nous allons terminer le sujet. Nous irons en deux endroits. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lirons la deuxième partie plus tard. Ce qui est remarquable, c'est de remarquer et de bien voir que le Fils de l'homme, verset 13, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça va ? Donc, le Fils de l'homme est le Fils de Dieu. OK ? Et... nous allons dans Exode 30, dans Proverbe 30, pardon. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Amen. On intitulera ce soir le sujet, quel est le nom de son fils? On peut même mettre quel est son nom et quel est le nom de son fils. On voit que celui dont il s'agit ici, c'est celui qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Dans Jean 3, verset 11, en vérité, je te le dis, il parle à Nicodème, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. On est en train de voir la question qu'on vient de lire dans Proverbe 30. Qui est monté au ciel, qui en est descendu? Réponse, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Et celui qui est descendu du ciel, c'est qui? C'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme, nous venons de voir dans Matthieu 16, il est le Fils de Dieu. Il faut reconnaître que ce Fils de l'homme, il est important de savoir qui il est. Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous guide. Si nous voulons avoir une vie sans histoire, ce serait bien de suivre ce que lui nous dit de faire. Des histoires, bien sûr, il y en aura. Mais là où nous sommes vainqueurs de ces histoires. C'est-à-dire que il parle ici dans Matthieu 16, nous avons lu, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ça veut dire que l'Église qui est bâtie par Jésus-Christ, elle sera sujette à être confrontée aux portes de l'enfer. Mais les portes de l'enfer n'arriveront jamais à prévaloir sur elle. Et il n'y a pas que l'Église. Et il nous parle dans Matthieu 7, là nous avions lu, il parle des maisons également. Une maison qui est bâtie sur le roc, elle peut traverser toutes les situations possibles, des pluies, des torrents, des vents, mais cette maison qui est bâtie sur le roc, elle tiendra. Elle ne se divisera pas. Amen. Tout le monde restera uni. C'est valable dans l'Église, c'est valable dans l'Église locale, dans les églises locales. Si nous savons qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, ces petites histoires qui naissent entre nous seront vite réglées. Amen. Pourvu que nous entendions les paroles qu'il dit. Lui qui, le Fils de l'homme. Parce que dans Matthieu 7, c'est bien le Fils de l'homme qui parle, n'est-ce pas? Quand il dit, celui qui entend la parole, les paroles que je dis, hein, c'est le Fils de l'homme. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous voulons tous que nos maisons soient bâties sur le roc. Nous ne voulons pas que nos maisons soient bâties sur le sable pour qu'à la première occasion d'une érosion, n'est-ce pas, que la maison s'érode. Nous voulons que la maison reste solide. Alors, maintenant, qui est-il, ce Fils de l'homme, ce Fils de Dieu? Il est qui? C'est ça la question. Qui est-il? Dans Luc chapitre 1er, d'abord, l'ange, c'est un ange qui nous dit qui est ce Fils de Dieu. C'est le fruit de la conception par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, de quelqu'un. Luc chapitre 1er, verset 30. On peut commencer un peu plus haut. Verset 30, oui, non, verset 30, c'est bon. L'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus.
Amen.
Alors, quel est son nom? Nous savons déjà que ce fils-là, celui qui devra être enfanté par Marie, n'est-ce pas, sera appelé Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est le Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas? Vous pouvez aller dans Genèse 17 et vous verrez, n'est-ce pas? C'est de Samuel. Attendez, dans. Oui, le Fils du Très-Haut, ou dans Genèse 17. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, il sera aussi fils de David. Ça va? Il régnera, il sera roi. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant, il est saint. Hein, Matthieu, tout à l'heure, Christ à Pierre disait tout à l'heure dans Matthieu, tu es le saint d'Israël, le fils de le Christ, le fils du Dieu vivant, le saint de Dieu. Et, donc en fait, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ça va? Donc, c'est le Fils de Dieu qui est le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et Fils du Très-Haut. Son nom, ici, nous voyons que c'est Jésus. Mais il y a une partie que Luc transmet, que Matthieu a transmise, que Matthieu a transmise dans ce que Luc transmet. Il y a une partie qui n'est pas donnée ici dans Luc. Mais c'est toujours le même ange qui a parlé. Il a parlé, en ce moment-là, Luc dit ce que lui, il a appris. Matthieu, lui dit ce que lui, il a appris. Et il a appris ceci dans Matthieu, chapitre 1er. Ça, c'est comme je dis toujours. Il peut y avoir un fait qui se passe ici en face. Et nous sommes tous témoins. Si nous sommes 24 sur le même fait, il y aura 24 manières de décrire les faits. Ce n'est pas pour dire que les faits sont faux. Il y en a qui donneront des détails que certains ne donneront pas. D'autres donneront les autres détails et ainsi de suite. En réunissant tous les témoignages, on peut avoir plus ou moins ce qui est complet.
Amen.
Ça, c'est entre nous les hommes. Mais quand c'est le Saint-Esprit, le témoignage complet viendra au travers de ceux qui ont écrit de la part de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 1er, nous savons depuis Luc que son nom sera Jésus. Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. » Ce détail est important. C'est une étape importante. Si vous bâtissez votre maison en tenant compte aussi de ce détail, c'est très bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Le message a dû être clair parce que ça a convaincu Joseph directement. Donc, elle enfantera un fils, comme dans Luc chapitre 1er, il nous est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, il s'agit bien du même. Ça va? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il donne quasiment le même détail que Luc, mais il va en donner un supplémentaire. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dites amen à ça. Donc, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, n'est-ce pas, est le Fils de Dieu. Et il est le Fils de Dieu, ce n'est pas Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas le Fils de Dieu avec nous. Ce qui signifie que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut avoir cette révélation-là, que c'est Dieu lui-même. À ce moment-là, quand vous le suivez, selon les problèmes que vous pouvez avoir, ceux qui avaient la révélation qu'il était le fils de David promis, eh bien, quand ils avaient besoin de lui, ils le suivaient. Bartimée n'a pas voulu lâcher l'affaire. Bartimée, il était aveugle. Il a appris que c'était Jésus qui passait et il savait que c'était le fils de David. Et vous savez, vous n'allez pas venir me demander 1 million d'euros parce que vous savez très bien que je ne les ai pas. Ça va? Nous sommes d'accord. Vous ne me demanderez pas quelque chose dont je suis incapable de vous donner. Mais quand Bartimée, il s'en tient à Jésus-Christ, et non pas à Pierre, et non pas à Jean, et non pas à quelque apôtre que ce soit, il ne s'en tient qu'à Jésus-Christ, c'est parce qu'il savait que Jésus-Christ pouvait le faire. Marc chapitre 10. Ils arrivèrent à Jéricho. Verset 46. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça signifie quoi ? Ça signifie que si Bartimée était en face et qu'il entend que c'est frère François qui vient, il ne demandera pas à frère François de lui donner la vue, parce que frère François en est incapable. Mais que si c'est Jésus-Christ, là, il est certain que c'est lui. Et il va lui demander, que veux-tu que je fasse? Eh bien, que je recouvre la vue. Dans Jean chapitre 9, Jésus dit à l'aveugle né, verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, qu'on l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Si vous croyez au Fils de Dieu, croyant qu'il est ce qu'il est, un jour il a posé la question, d'abord lui, l'aveugle pose la question, et qui est-il Seigneur afin que je croie en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il adora. Oui, parce que le fils de David devait être le Messie, le Christ. C'est pour cela que quand il pose la question aux pharisiens, dans Matthieu 22, verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ?» N'oublions pas, quand Pierre a eu la révélation, il a dit, « Tu es le Christ. » Donc Pierre, il pensait certainement ce qu'il disait en concernant le Christ, que le Christ était le Fils du Dieu vivant. « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent de David. Donc le Messie, le Christ, serait le fils de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc Dieu dit à mon Seigneur, donc mon Seigneur et mon Dieu là, le Dieu, le Père, il dit à mon Seigneur, l'autre dans son fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Ouais. Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Et Frère Abraham dit, la réponse à cette question, « Que pensez-vous du Christ ?» détermine votre destinée, votre destinée éternelle. Si vous ne croyez pas que Christ est le Christ, eh bien, vous mourrez dans vos péchés. Ça va? Et vous mourrez dans vos problèmes. Et vous mourrez dans vos soucis. Dans tout ce qui vous tourmente ce soir, vous y mourrez dedans. Parce que à chaque fois, vous vous adresserez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais quand vous le connaissez, alléluia, on ne le connaît que par révélation, vous lui demanderez la chose juste. J'étais en train de chercher un passage, mais je crois que c'est dans Luc, je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas grave, je crois que vous le connaissez. Je crois que c'était de lépreux ou un autre aveugle qu'il avait abordé. Et il lui pose la question, « Crois-tu que je suis capable de le faire ?» L'autre a dit, « Oui, Seigneur, je le crois. » Et quand il a dit, « Je le crois », il a reçu ce qu'il a eu. Donc, quand vous vous approchez de lui, quand vous lui demandez quelque chose, comme Bartimée, soyez certain qu'il peut vous accorder cette chose-là. Ça va? Il est la solution à nos problèmes. Jésus est réellement celui qui est monté au ciel et qui est descendu du ciel. Pour comprendre ça, qui est monté, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, alors qu'il est là devant vous, pour comprendre ça, il faut une révélation du Père. Parce que humainement parlant, cette équation est impossible à résoudre. Mais Dieu résout les questions impossibles. Amen. Quand on était étudiant, lorsqu'on devait résoudre des équations, il y avait des équations où on mettait équations impossibles. Et le prof de maths nous disait, la solution est à l'infini. Eh bien, là-bas, l'infini, Christ, il connaît la solution. Si une question est posée, il doit y avoir une réponse. Amen. L'homme va chercher une échappatoire, il va vous dire c'est à l'infini parce qu'il sait que vous n'y arriverez jamais à l'infini. On peut accorder à l'infini tout ce qu'on veut. Amen. Parce que c'est invérifiable. Mais Dieu peut vérifier cela. Si une équation a été posée, eh bien, c'est qu'il y a une réponse quelque part. Là où l'homme n'a pas la réponse, Dieu a la réponse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'ange. L'ange dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça va? Dans Luc chapitre 10, mais pour comprendre ça, il faut que Dieu vous le révèle. Ce Fils de l'homme qui est monté puis qui est descendu, il est dans le ciel. Ça, il n'y a que Dieu qui peut vous le dire. À l'assemblée, quand le prédicateur va prêcher ça, dès qu'on sortira à la sortie, il aura des questions. Frère François, comment peux-tu expliquer ça? Quelqu'un qui est là devant vous, et puis qui vous dit, il est dans le ciel. Frère François vous dira, je n'ai pas d'explication, mais c'est écrit.
Amen.
Et si c'est écrit, toi, crois seulement.
Amen.
On ne vous demande pas de seulement croire que ce qui est évident. Croyez aussi ce qui n'est pas évident.
Oui.
Tant que ça vient de Dieu, croyez-le. Amen. Lorsque cet homme intelligent vous dira, eh bien, ça dépasse les limites de l'homme, eh bien, ce qu'il vous dit est vrai. Ce qu'il vous dit est vrai. Ça dépasse les limites de l'homme. Mais si vous avez la révélation de qui est Jésus-Christ, vous ne lâcherez pas l'affaire. On vous prendra pour un fou, mais vous ne lâcherez pas l'affaire. Luc 10. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, sur toute la puissance de l'ennemi. » Amen. On s'arrête là quelques minutes. Dans Luc 11, j'ai mal noté, mais ça, je n'ai pas noté. Il dit ceci dans Luc, mais ce n'est pas Luc 11. Il dit, vos pères savent vous donner des bonnes choses. Mais si vous demandez au Père Céleste, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il de bonnes choses, n'est-ce pas? Et en fait, si vous demandez du pain, il ne vous donnera pas un serpent ou un scorpion. C'est ce qu'il dit. Ça va? Alors, hier, je parlais avec un frère qui avait apporté une requête ici et sa requête n'est toujours pas, comment dire, sa requête n'a pas trouvé de réponse. Elle n'est toujours pas exaucée. Alors, moi, je lui ai dit, écoute, mon frère, si Dieu ne te le donne pas, c'est que ce n'est pas bon pour toi. S'il demande un œuf, c'est bien Luc 11, verset 12. On va y aller. On va revenir dans Luc 10. Verset 11. Allez. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je lui ai dit, frère, Dieu ne te donnera pas de scorpion ni de serpent. C'est que peut-être ce que tu demandes là, c'est un scorpion ou un serpent. Quelque chose qui peut te conduire à la mort spirituelle ou carrément te donner des soucis. Et nous sommes justement dans un temps où la venue du Seigneur est proche. Certains vont rater la venue du Seigneur à cause des soucis. Venez avec vos soucis, déposez-les à ses pieds. Lui-même, il prend cela en charge. Il prend soin de vous. C'est 1 Pierre 5, ça. Ça va? Donc, ces soucis-là, plus la venue du Seigneur approche, plus nous avons des soucis. Plus ça nous vient. Pourquoi? Pour que nous soyons, toute notre attention soit attirée par les soucis. Et il faut chaque fois, Pierre disait ceci, plus les jours approchaient, ben déjà de leur temps, Pierre disait, je ne cesserai de vous rappeler ces choses pour éveiller votre attention. Et c'est le travail du Saint-Esprit encore, puisque Pierre s'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a écrit ça. Si le Saint-Esprit attirait l'attention des croyants en ce temps-là, il attire encore l'attention en notre temps. On risque d'avoir des soucis aujourd'hui, hein, qui peuvent tourner nos regards, attirer nos regards de manière à ce que nous ne regardions plus les signes de temps que nous avons eu le privilège d'avoir. Il y a des signes que tout le monde a. Il leur suffit d'avoir la Bible. Mais il y a des signes que vous qui avez accepté le message, vous avez, que les autres n'ont pas. Dites amen à ça. Hein? Les autres. Il regarde les signes, tant de Noé, c'est très bien, tant de l'autre, c'est très bien. Hein? Ce sont des gens qui lisent. Mais vous, ce message du temps de la fin, il y a des signes qui ont été donnés. Des voitures autonomes, n'est-ce pas? Des villes qui vont s'écrouler en dessous de la mer. Des vice-présidentes qui deviendront présidents. Présidente, pendant que ces choses-là arrivent, ne vous noyez pas dans vos soucis à vous. Vous oubliez que là-bas, quelque part, aux États-Unis, il y a une prophétie qui est peut-être en train de s'accomplir. Soyons attentifs.
Amen.
Ça va? Et le Saint-Esprit nous dit, vous faites bien d'être attentif à la parole prophétique. Il ne faut pas que vos soucis vous fassent oublier ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Il ne faut pas que vos soucis vous fassent oublier ce qui se passe en Ukraine, en Russie, là-bas, l'Iran. Tous ces pays-là sont concernés. Un jour, on va y arriver, on en parlera, si Dieu le permet. Toutes ces choses, ces accumulations d'armes de ce côté-là, il va se passer des choses. Amen. Quand ce monsieur menace les gens de déclencher du nucléaire, mais dans Zacharie, il nous a dit, il y aura de ces maladies qui seront là, où la chair va tomber pendant que les gens sont debout. Soyons attentifs. Amen. Pour nous, la venue du Seigneur est proche. C'est vrai, nous avons des problèmes. C'est vrai qu'on ne nie pas qu'on a des problèmes. Mais ces problèmes, n'est-ce pas, ne doivent pas attirer notre attention de manière à nous faire oublier la réalité des choses. Amen. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il est le fidèle. Il dit les choses qui sont vraies. Il nous a promis qu'il viendra nous chercher. Eh bien, vous avez des problèmes. Dites-lui merci. Merci Seigneur pour ces problèmes. Mais moi, je t'attends. Amen. Vivement que tu viennes. Viens Seigneur Jésus. Puisque quand tu viendras, ce sera la fin de mon problème. Ça va? Et maintenant, pour cela, il faut avoir la révélation que c'est bien lui. Nous étions dans Luc 10. On a lu le verset 19. On a ceci. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc Dieu dit, il ne nous donnera pas de serpent ni de scorpion. Mais si jamais il y en a, si jamais ils viennent sur notre chemin, eh bien, nous marcherons sur eux. Ne vous laissez pas tourmenter par ces scorpions-là. Marchez sur eux. Dites amen à ça. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Yes, on a chassé des démons. Tout ça, c'est très bien. Mais là, ma finalité, ce n'est pas de chasser les démons. Ma finalité, c'est d'être auprès de lui, auprès du Seigneur. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc nous vivons de la révélation, du roc de la révélation. C'est pourquoi les calamités nous attrapent, mais notre foi ne défaille toujours pas, parce que nous savons en qui nous avons cru. Satan peut venir nous dire, il a dit au frère Branham, il dit, Billy, toi, après tout ce qui vient de t'arriver, il a perdu sa femme, son bébé, son père, son frère. Tout allait très mal. Il a même failli se suicider, tellement qu'il n'arrivait pas à supporter. Même ça, il a raté. Il a raté de se suicider. Oui. Et il est parti. Il marchait avec sa Bible. Il rencontre Satan en personne, caché dans un pot. C'était quelqu'un, voilà, souvent comme ça. C'était quelqu'un qui lui était proche, qui l'appelait Billy. Il l'appelait par son surnom, dit Billy. Après tout ce qu'il t'a fait, tu continues toujours à le servir. Il dit, si jamais il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Ouais. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il dit, je l'aimerai toujours. Même en enfer, je l'aimerai. Qu'à Dieu ne plaise, je ne veux pas de l'enfer, mais s'il m'y envoie, je l'aimerai quand même. Je l'aimerai toujours. Ouais. Alors, qui est-il? Jésus-Christ. Quand il parle aux Juifs, il dit ceci. Jean chapitre 8. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Or, Abraham a gardé la parole et il est mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Bien sûr qu'il est plus grand qu'Abraham. Les prophètes aussi sont morts. Toi, qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la révélation de qui il est. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oh, question, est-ce qu'Abraham est mort il y a 50 ans? Même s'il avait 50 ans, il n'aurait pas vu Abraham, si c'était un homme ordinaire. Hein? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui. Et verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Vous savez pourquoi ils ont voulu jeter des pierres contre lui? À cause du « je suis ». Parce que Dieu s'était révélé à Moïse en ce nom-là. Quand Moïse a posé la question, « Si je vais vers les enfants d'Israël, Exode 3, et je leur dis que le Dieu de vos pères m'a envoyé, que leur dirai-je? Quel est son nom ?» Et Dieu va décliner son nom. Donc le « je suis » là, c'est bel et bien lui. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, à cette question-là, voici la réponse. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et les Juifs savaient ça. Alors quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût Je suis, pour eux, c'était un blasphème. D'ailleurs, dans Jean 10, ils vont le lui dire clairement. Hein, dans Jean 10, verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui, mais parce que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous savez quoi? 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'était une habitude de Jésus. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Comment ça je me fais Dieu ? Tu as dit que tu es je suis. » C'est un, c'était dans, il y a deux chapitres. Tu as dit, tu es je suis. Maintenant, tu dis que toi et le Père, vous êtes un. Alors là, c'est trop, nous voulons te lapider. C'est terrible, hein? Maintenant que vous savez que Jésus est le je suis qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est le même je suis. Vous savez, des hommes, si vous avez la révélation qu'il est le je suis, quand vous priez au nom de Jésus-Christ, vous avez la révélation de cette prière. Ce nom-là, nul ne peut le prononcer, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, nul ne peut le prononcer si ce n'est par le Saint-Esprit. Si c'est juste par un désir charnel, ça ne marchera pas. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. À ce moment-là, puisque Éphésiens 6 nous dit, faites en tout temps des prières et des supplications par l'Esprit. Cherchez la conduite de l'Esprit. Pas une prière que vous avez lu les psaumes pour bien prier, vous avez lu ceci pour bien... Non, laissez l'Esprit vous conduire. Et tant que c'est l'Esprit qui vous conduit, ce sera peut-être en mauvais français, mais tant que c'est l'Esprit qui vous conduit, ou en mauvais lingala, que sais-je, ou je ne sais pas dans quelle langue vous priez, même si c'est grammaticalement, ce n'est pas bien juste... Tant que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, Dieu comprend votre langage. Enfin, parce que c'est son langage à lui, c'est le langage du Saint-Esprit. Peut-être vous-même, vous ne comprendrez pas ce que vous demandez. Si vous parlez en langue, là, tout de suite. Un véritable parler en langue, venant du Saint-Esprit, parce qu'il y a des faux. Vous risquez de ne pas comprendre ce que vous-même vous dites. Tant que vous n'en avez pas l'interprétation. Et pourtant, ce sont des choses glorieuses que Dieu vous fait. C'est pourquoi il faut demander à Dieu l'interprétation. Que Dieu vous donne l'interprétation. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma propre prière? Et, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, il dit, verset 35, « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Oui. Donc, si vous savez que le Fils de Dieu est Dieu, il est le je suis, le même je suis qui a envoyé Moïse vers Pharaon et les enfants d'Israël. C'est le même je suis qui a frappé l'Égypte et les dieux de l'Égypte. C'est le même esprit qui a fait souffler un vent, qui a commandé un vent pour pouvoir permettre, pour frayer un chemin aux enfants d'Israël au travers de la mer Rouge. C'est le même je suis. Exode 14. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Donc, vous comprendrez par là que le je suis, il commande au vent. Il produit le vent. Hein? Jonas en sait quelque chose, n'est-ce pas? Dieu a fait venir un vent sérieux, n'est-ce pas, pour que Jonas, son bateau, n'arrive pas à, où ça, comment s'appelle encore cette ville, à Tarsis, pour que ça n'arrive pas à Tarsis. Jonas, il devait savoir que Dieu est capable de ne pas, pour, de faire de sorte qu'il n'arrive pas à Tarsis. Vous savez, si vous payez votre billet pour Tarsis et vous dites que vous allez à Tarsis, Jacques nous donne ce conseil. Il faut toujours ajouter derrière « si Dieu le veut ». Amen. Si Dieu le veut. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jonas, chapitre 1er, verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, alors que la parole de Dieu lui dit d'aller à Ninive. Loin de la face de l'Éternel. Si vous avez la révélation de qui est l'Éternel, vous savez que vous saurez que c'est impossible d'aller loin de sa face. Il saura toujours où vous êtes. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Dieu est celui qui contrôle les vents. Donc, si vous suivez, c'est que quand les paroles que le Fils dit, et que vous entendez ces paroles-là, si vous mettez ça en pratique, c'est que vous êtes sur du solide. Parce que le Fils, là, il est le « je suis ». Les vents qui soufflent, c'est lui qui les commande. Les catastrophes naturelles qu'il y a, ce sont des choses qui devaient arriver. La parole de Dieu a dit que ça devait arriver. Il y a une tempête qui vient de souffler là-bas, du côté de la Pologne et de consorts. Eh bien, ils doivent savoir que ce sont des signes qui nous parlent à nous. Nous savons ce qui arrive. En tout cas, nous avons cette confiance que la parole que nous avons reçue en ce temps de la fin est réellement une parole de Dieu, parole révélée, révélée pour notre temps. Donc Dieu contrôle les vents. Il fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Il ne faut pas que votre foi fasse naufrage. On l'a dit la semaine passée. Terminons. Les vents peuvent vous frayer un chemin, tout comme ça peut vous secouer. Mais, comme dit le cantique, quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines. Les torrents peuvent venir. En pleine sécheresse, Dieu a commandé à un torrent de continuer à donner de l'eau pour que son prophète ait à boire. Élie a bu, il était au bord du torrent de Kérit. 1 Roi 17, 4. Dieu a permis que son peuple ait à boire en plein désert, par des torrents. Donc, si ce sont des torrents qui s'abattent sur votre maison, sachez que le Dieu que vous servez, celui qui est, comment dirais-je, il est le maître de ces torrents-là, de ces vents-là, de ces tempêtes-là. La muraille de Jéricho s'est écroulée. La maison de celle qui a fait confiance en ce Dieu-là, sa maison a tenu malgré que toute la muraille s'est écroulée. Donc, si la tempête souffle aujourd'hui et que vous accrochez toujours au Dieu véritable, le monde va s'écrouler, mais vous resterez debout. Vous y croyez? Amen. Dans le désert, ils ne pouvaient pas mourir de soif. Moïse, tu nous as amenés ici pour que nous mourions. Non, 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 non. Dieu est capable de donner à boire. Psaume 74, et nous allons prier. Je ne lirai pas Deutéronome 28. Vous allez voir que celui qui a. Je vais lire peut-être juste deux versets, comme ça, qu'on voit que celui qui entend les paroles que je dis, c'est le même qui parle dans Deutéronome 28. Celui qui parle dans Matthieu 7, c'est le même qui parle dans Deutéronome 28. Verset 14, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Apparemment, il paraît que c'est bon le crocodile. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Dites amen à ça. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Donc, si vous êtes en pleine obscurité, en pleine ténèbre, Dieu reste le maître. Aucune situation ne vous mettra dans l'angoisse. Je disais, Deutéronome 28, c'est quasiment les mêmes paroles, mais ici, ce sont des promesses de bénédiction ou des promesses de malédiction, selon qu'on entend et qu'on met en pratique, ou selon qu'on entend et qu'on ne met pas en pratique. Deutéronome 28, verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions, dites amen à ça, qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous pouvez lire les bénédictions. Au verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous pouvez lire les malédictions. Quel est son nom? C'est Jésus-Christ. Il est le Je suis. Et il dit aussi toujours dans Jean 8, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Prions le Seigneur. Que Dieu nous révèle et qu'il nous révèle sa présence. Il est la parole, sa parole ne peut mentir. Sa parole nous dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans nos rassemblements, prions, Seigneur, si j'y vais parce que tu l'as dit, je cherche tes bénédictions. Et si vous avez besoin de ces bénédictions, mettez cela dans vos cœurs pour nous allons prier. Nous prierons pour toutes ces choses. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons à toi, sachant que les promesses que tu fais, comme Abraham autrefois, sachant que tu étais le Dieu qui ne pouvait mentir, avait dit que tout ce que tu promettais, malgré que son corps était usé, et le corps de sa femme également, oh Dieu, il savait que tout ce que tu promettais, tu étais plus que capable de l'accomplir. Maintenant, oh Dieu, tes enfants sont ici. Oh, donne-leur la foi d'Abraham, donne-leur la révélation d'Abraham. Tu avais révélé à Abraham que tu étais le Dieu tout-puissant. Tu as même dit à Abraham qu'il n'y avait rien d'étonnant qui pouvait venir de ta part. Tu as dit à Moïse, à qui tu as révélé que tu étais le « je suis », que ton bras n'était pas trop court pour secourir. Oh, tes enfants ont besoin de cette force de ton bras. Tes enfants ont besoin de cette puissance, soit qui guérit, oh, soit qui délivre, oh, soit qui nous fait passer vainqueur, oh Dieu, au travers des problèmes, oh Seigneur notre Dieu, au travers des soucis, au travers des épreuves. Nous confions à toi et te remercions pour l'occasion que tu nous as donnée ce soir, oh Père, et nous te remettons tout sous ton contrôle, que tu contrôles tout, oh Seigneur, que nos soucis, que tu les prennes, nous les déposons à tes pieds, ainsi que tous nos problèmes, et nous nous attendons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous faisons cela. C'est ainsi que l'apôtre nous l'a dit, poussé par le Saint-Esprit, il nous a dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Il nous a dit, déposez vos soucis, venez vos soucis à ses pieds, parce que toi-même, tu prends soin de nous. Et nous le croyons de tout notre cœur. Te remets tes enfants entre tes mains, raccompagne chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.